Vous écoutez
RMC.
RMC.
On s'est bien fait entuber par un arbitrage maison.
Un arbitre de touche, il décide de l'issue d'une rencontre comme ça. Et lui, je sais pas ce qu'il avait, mais il voulait pas qu'on gagne.
Et c'est un arbitre qui a expulsé deux joueurs et un Ancelotti. Faut être une coïncidence.
Et on a marre de cet arbitrage français. Et on nous explique que l'arbitrage français est le meilleur de France.
Quand ils vont siffler un pénalty à Lyon, bah, le siffle plus. Il faut vraiment qu'il soit flagrant, hein. Parce que j'ai des preuves. J'ai la mémoire des matchs.
Ah, c'est pas croyable qu'il accorde pénalty là-dessus. Alors ça, je n'ai vraiment pas peur de le dire, monsieur Foot, vous êtes un salaud.
RMC, l'afterfoot.
Christophe Plenet.
Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans l'After. Joie immense de vous retrouver pour l'Afterfoot en direct sur RMC, en direct également sur Afterfoot TV et en direct sur la chaîne YouTube de l'After. Comme tous les soirs, nous sommes là jusqu'à 22h, horaire d'été. L'After désormais, donc tout l'été, de 20h à 22h, est rediffusé ensuite de 22h à minuit. L'After est là, RMC, première radio de France le soir. Comme d'habitude, le 32-16 est ouvert. Le numéro WhatsApp de l'After pour vos messages, 06 12 424 424, titulaire ce soir à mes côtés, deux piliers de l'After. J'accueille avec une joie non dissimulée Florent Gautreau. Salut Flo.
Salut Christophe, salut à tous.
Tout va bien, t'as bonne mine.
Oui.
Ouais.
Reste splendissant. Prenez un peu de vacances, effectivement. Je suis obligé de le concéder.
Présent également David Guzman. Salut David.
Bonsoir Christophe, bonsoir à tous.
Salut David.
Allez, au programme olympique lyonnais, battu hier 2-1 à Prague par le Sparta. Les Lyonnais ont-ils hypothéqué leur chance de se qualifier pour les barrages de la Ligue des Champions? Êtes-vous inquiet par rapport au premier match officiel de l'OL? Grosse page Ligue 2. On va s'intéresser aux voisins de Lyon. Les Verts de Saint-Etienne vont-ils enfin écraser la Ligue 2? On parlera des favoris, des tendances, on vous dira tout. Au programme également, le Paris Saint-Germain, toujours sans recrue officielle. Toulouse, à quelle saison peut-on s'attendre de la part des Violets? Ce sera l'avis tranché de David Guzman. Les dernières infos, Mercato, tout ça et plus encore, c'est dans l'After et c'est tout de suite. Hello David, on démarre donc par l'Olympique Lyonnais battu en République Tchèque hier 2-1. Choix tactique douteux, effectif bancal, cadre en méforme. Pourquoi Lyon est encore loin du compte pour la qualification en Ligue des Champions? La défaite à Prague dans son contenu conjugué aux émotions de son entraîneur, au manque de progression collective et aux incertitudes liées à son effectif a confirmé hier que l'OL n'était pas encore prêt pour une qualification en C1. L'équipe de Paulo Fonseca s'est logiquement inclinée à Prague après avoir eu la chance inouïe de mener à la pause. Sans changement, la Ligue des Champions paraît bien loin. Faut-il être inquiet, faut-il s'inquiéter pour l'avenir européen de l'Olympique Lyonnais?
Je suis pas sûr qu'il faille s'inquiéter forcément, parce que moi ce match m'a paru très bizarre en fait. Et je pense que le match retour sera très différent de ce qu'on a vu hier. Bon, il y a effectivement, je pense qu'il y a une faute et une petite faillite de Fonseca sur ce match. Un choix, en tout cas. Enfin, un choix, hein. On fait des choix quand on est coach. Il a clairement, je pense qu'il s'est trompé. Évidemment, c'est plus facile pour nous de le dire, mais ça s'est vu très vite sur sa défense à 5. Ils ont pris des buts, dans leur prépa. Ils en ont repris hier. Il y a clairement un problème défensif. Mais il est vrai que Niakate n'était pas là. Voilà, on est dans des équipes hybrides. Donc, il a fait un choix. Oui, on peut dire maintenant qu'il s'est trompé. C'est vrai qu'à la lecture de la compo, beaucoup s'étonnaient, étaient un peu inquiets. Donc, on peut penser qu'effectivement, il a fait un pari raté. Mais j'ai envie de dire que, pour voir le verre à moitié plein, je disais que le match retour serait très différent parce que, je l'ai dit, Niakate sera là. Je pense qu'effectivement, peu à peu, les automatismes reviennent. Et surtout, offensivement, il y a des choses. Offensivement, il y a des trucs. L'entrée de Fofana et Nouama a été intéressante. Openda, c'est quand même hyper important. Donc, je dirais presque par rapport au scénario du match que le 1-2, il n'est pas catastrophique en termes d'écart. Pour moi, hier, sur le match, si tu as deux buts d'écart pour le Sparta, qui n'est pas incroyable non plus, pourtant, eh ben, ça n'aurait pas été illogique. Le match est très bizarre. C'est au moment où le Lyon est le moins bien qu'il marque. C'est au moment où ils peuvent revenir entre les deux buts qui ratent le péno. Mais voilà, moi j'ai envie de voir le positif. J'ai vu du Tolisso. Bon, ok, le péno raté, mais son occasion, il est toujours présent devant le but. J'ai vu donc offensivement des choses intéressantes. Donc ce qui est inquiétant, c'est toujours pareil, c'est le niveau du foot français. C'est-à-dire qu'on est sur un tour préliminaire et notre équipe quatrième de Ligue 1 a galéré contre le Sparta de Prague. Ça, c'est inquiétant. Donc effectivement, pour répondre à ta question, oui, tu peux être inquiet, oui, c'est pas fait, mais j'ai envie de penser que le match retour n'aura rien à voir avec ce qu'on a vu hier.
David ?
Moi, ce qui m'inquiète, c'est la réaction de Fonseca en après-match. Alors certes, il était groggy de la prestation catastrophique de ses joueurs. Certes, c'est très difficile d'admettre ses erreurs ouvertement aussi rapidement après une telle déconfiture. Mais ne pas se remettre en question tactiquement, persister dans le fait que son choix tactique était le bon, qui a été d'ailleurs remis en cause par Clinton Mata quelques minutes après, qui a avoué à demi-mot que ça n'avait jamais été préparé. J'espère que ça a déclenché, peut-être pas la bombe atomique au sein du club, mais que Fonseca, qui donnait tout de même l'impression de voguer un peu au-dessus de la hiérarchie, d'être incontestable et incontesté, il s'est un peu fait souffler dans les branches suite à ses choix d'hier. Parce que ces choix, quelque part, c'est un peu un doigt d'honneur pour sa cellule de recrutement, qui lui ramène deux ailiers, Boudache et Duranville, en plus des deux ailiers stars, Nouama et Fofana, et lui, il décide de jouer sans. C'est un peu un doigt d'honneur à son management, à Michael Gerlinger, qui a dû ou qui aurait dû insister sur l'importance financière d'une participation à la Ligue des Champions. Donc en fait...
Et juste coupe, on rappelle que c'est simplement le troisième tour préliminaire. Hein. Il y aura un éventuel barrage en cas de qualification, soit face à Fenerbahçe, soit face à Sturm Graz. La route est longue.
Censé être, ce match contre le Sparta de Prague, c'était censé être plus ou moins une formalité, on est d'accord. Tout le monde se projetait plus ou moins sur le Fenerbahçe en regardant l'effectif. Quand on regarde l'effectif de Lyon, quand on regarde les moyens déjà injectés au Mercato, parce qu'ils ont pris des risques aussi, ils ont décidé d'acheter avant de vendre. Donc, j'espère qu'il y aura une prise de conscience collective et j'espère qu'en interne, il y a eu une remise en question, même si le sportif, l'administratif et la cellule de recrutement doivent être imperméables et que le sportif doit être souverain. J'espère qu'il y a vraiment une prise de conscience du côté du staff de Fonseca.
Supporters lyonnais, n'hésitez pas à composer le 32-16, à appeler Max pour intervenir donc sur ce débat sur l'Olympique lyonnais. Prague n'avait jamais battu en Coupe d'Europe l'Olympique lyonnais avant ce match hier.
C'est un peu la nouvelle vie, je te dis, c'est un peu la nouvelle vie de la France. Aussi. Moi, hier, j'entendais dans les commentaires un truc, par exemple, tiens, il vient du championnat autrichien, c'est un gap à passer.
Pour Drogo,
par exemple, par rapport à un club qui est quatrième de Ligue 1. Oui, d'accord, ok. Je dis pas que le championnat autrichien est aussi fort que le championnat français, mais il faut qu'on cesse de raisonner en pensant qu'on est des coudés au-dessus
du championnat autrichien. Il est parti à Brentford pour 48 millions, exactement. Il s'est adapté
immédiatement. Moi, je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, vous avez parlé de la cible de recrutement qui fait du bon boulot. Moi, je pense qu'aujourd'hui, faut pas se sentir supérieur. Mais en revanche, t'as un matériel dingue pour y arriver.
Est-ce qu'il y a eu un peu de suffisance hier?
Alors, c'est difficile à dire parce que je pense que les joueurs ont été, pour le coup, il faut le dire, hein, un peu surpris et ont dû s'adapter au système aussi.
Ils sont complètement perdus. Il y a des suffisants. Pour moi, c'est de Fonseca. Ouais. C'est-à-dire que, encore une fois, il a voulu être le personnage principal tactique. Il a voulu être le principal acteur de cette confrontation. Et on a vu quand il revenait, Flo, tu l'as dit, quand il revient à quelque chose de plus traditionnel, de plus cohérent, tout de suite, le Sparta est en danger. Donc moi, quelque part, en fait, je partage ton optimisme de par la qualité intrinsèque de l'Olympique lyonnais. Mais c'est vraiment, le comportement de Fonseca qui me fait peur.
Ouais, après je me dis à la limite que t'enferres le soir même du match, ce qui est arrivé à d'autres, hein. Didier Deschamps n'a pas changé de système contre l'Espagne, il a sorti son meilleur joueur à la mi-temps, ça arrive à tout le monde de rater des matchs, à Luis Enrique qui a pris Newcastle quand ils avaient pris une défaite c'est là-bas, de dire 4, aussi je me suis pas trompé, c'est vous qui avez rien compris, puis derrière tu changes, donc t'as le temps de changer. Moi, je remarque juste que c'est vrai que de voir Tessman derrière en charnière centrale,
est-ce que le dernier match de préparation et la fessée reçue 4-0 contre le Betis a pu trotter dans la tête du Portugais.
Mais ce qui est le plus inquiétant à chaque fois quand tu fais ces choix-là, quand ils sont pas préparés, puisqu'apparemment c'était pas très préparé, c'est que tu transmets de la fébrilité à tes joueurs, qui se disent le coach lui-même n'est pas sûr, le coach lui-même nous fait jouer comme ça, sans compter qu'effectivement tu as des équilibres. Tu vois, un joueur comme Abner, ok, il a fait un mauvais match. Enfin, il a pas fait un très bon match. Mais Abner, il a joué à des postes. Le mec, il s'est adapté à ce qu'on lui a demandé de faire. Puis derrière, en plus, il était faire l'interview d'après match en essayant
Il est quand même là, tu vois, sur l'action du CSC. Il est aussi sur la photo, sur le penalty.
Oui.
Il est fautif sur le premier but, mais bon.
Non, mais ce que je veux te dire par là, c'est, et pour revenir au début, c'est que pourquoi tu, enfin, je vais pas dire que je suis optimiste. Quand t'as perdu au match aller comme ça et que t'as rendu une copie comme ça, tu vas pas être optimiste. Je dis juste que t'as les moyens, le matériel de changer. Ce qui m'a choqué aussi hier, c'est les deux changements et les uniques deux changements de Fonseca. Donc quand tu regardes son effectif, quand tu regardes ce qu'il peut faire tactiquement, je dis qu'effectivement au retour tu peux avoir un autre match et qu'aujourd'hui t'as un but d'écart. C'est pas insurmontable, c'est pas injouable. Mais effectivement, faut voir un peu plus loin. Faut voir plus loin sur le tour d'après, sur est-ce que cette équipe tactiquement, enfin Fonseca, il est capable de mettre en place quelque chose, parce que ça veut dire que dans la prépa, pour l'instant, en gros, tu n'as pas trouvé de système. Tu n'as pas de système sur lequel t'appuyer, ce qui est quand même un petit peu gênant.
Et
parce que tout le monde sait depuis, enfin ils le savent, hein, c'est un enjeu qui est compliqué. On l'a vu avec Lille avant, l'an dernier. Il faut être prêt à un moment où normalement tu l'es pas. Et ça, c'est un vrai souci.
Non, mais surtout qu'ils ont fait des efforts, en fait, si tu veux. C'est là où je te dis que la direction doit être furieuse. Parce qu'ils ont fait des efforts. On sait que Lyon, économiquement, ils doivent vendre, ils ont un accord de règlement avec l'UEFA, ils ont engagé des sommes assez importantes, ils ont fait un gros effort sur Bidstrup qui malheureusement est blessé, et là, en ne te mettant en danger de même pas passer le premier tour, tu te condamnes un peu aussi la valeur marchande des joueurs que tu dois sortir, parce que là en fait les clubs qui étaient sur les joueurs, ils vont se fraiser les moustaches, ils vont se dire bah attends, moi Lyon, on va attendre la potentielle sortie, la non participation avec des champions, et là on veut aller offrir 5, et ben on va offrir 2 parce qu'ils vont pas avoir la manne de la Ligue des Champions et ils vont être un peu contraints financièrement.
Match retour qui aura lieu dès mardi prochain, ce sera le 11 août bien sûr à Décines, au Groupama Stadium. On va accueillir Grégory qui a composé le 32-16, supporter lyonnais. Salut Greg. Greg, tu es avec
Salut Grégory. Allô.
Salut Grégory, bienvenue dans l'after, supporter lyonnais. Ton analyse sur le match d'hier?
Alors moi j'ai une analyse un peu mitigée, je suis assez d'accord avec Flo, d'ailleurs salut Flo, c'est un plaisir de te revoir.
Salut.
Je t'ai fait de bonnes vacances.
Et les autres, tu t'en moques, sympa.
Je suis mitigé parce que j'entends beaucoup parler de tactique, il y a énormément sur Fonseca auquel je suis d'accord, mais je trouve quand même qu'il a manqué pas mal de choses hier, notamment au niveau, évidemment conditions physiques, c'est le début de la saison, c'est normal, mais je dirais qu'il y a quand même pas mal de joueurs qui m'ont un peu déçu, ne serait-ce qu'en termes de motivation, quoi. J'ai pas vu un match de qualification de Ligue des Champions, donc je sais pas si c'est le staff, le club, les joueurs... Déjà la défense, De Carvalho, j'ai trouvé qu'il a manqué d'énergie.
Non mais lui il manque de niveau, c'est pas pareil. Enfin De Carvalho, je pense que c'est une question de niveau et c'est même pas une question de motivation.
Moi le niveau j'entends. En début de saison, j'aimerais déjà d'abord que les joueurs aussi entrent plus déjà. Ok, le niveau j'entends, mais même Maitland Niles, Mata, c'était moyen, Tesman moyen.
Mais t'es surpris?
Pas surpris, j'espérais juste un peu plus de détermination pour une qualif en Ligue des Champions. On a parlé tellement à la fin de saison dernière après le match de Lens.
Mais moi, je vais te dire quelque chose. À part Maitland Niles, qui est nonchalant de façon naturelle et quasiment chronique, je trouve qu'ils ont été assez appliqués. Mata, il est juste mauvais depuis des mois et des mois. Je pense qu'il a plus le niveau des prétentions de cette équipe. Et Tesman, ça a été le moins mauvais de la ligne. La seule chose que je partage avec Fonseca dans l'analyse, c'est que Tesman a été le moins mauvais de la ligne défensive. Oui, alors qu'il a joué hors poste. Mais après, je pense, même dans l'implication, lui, c'est juste en fait un problème. Encore une fois, un problème de qualité. Je pense pas que ce soit un problème d'implication.
Donc là, pour toi, en fait, les joueurs genre peuvent pas faire mieux.
Non, ouais, non, moi je pense que comme tu dis, il y a le problème physique. Il faut voir en ce début de saison. Donc tu as des joueurs que j'ai trouvé moi pas dans le rythme. C'est pas forcément toujours nonchalant. Moi j'ai trouvé des joueurs
notamment
Kluivert, Maitland Niles aussi. Moi de Maitland Niles, je pense que tu vois sur des matchs, un match retour où tu mets ta compo avec des joueurs qui ont de l'expérience et qui ont l'habitude de jouer ensemble.
Et une semaine de plus dans les jambes.
Une semaine de plus et les attaquants. Moi j'insiste sur l'entrée de Fofana et Nouama. Fofana et Nouama, c'est un vieux truc dont j'ai parlé dans l'after pendant des semaines et qui est jamais venu parce qu'en fait ils sont parvenus et moi je disais à chaque fois vous verrez ça va être bien parce qu'il y a les recrues mais en plus ils ont des recrues invisibles, non, c'est leurs propres joueurs qui vont revenir, ils sont parvenus. Bon, mais Fofana il a pas perdu toutes ses qualités, Nouama non plus, donc tu as quand même Openda, Fofana, Nouama, tu as et derrière t'as Humbert qui est resté sur le banc, t'as Boudache qui est resté sur
le banc,
t'as Duranville. Donc moi je, alors évidemment,
donc problème tactique,
bien sûr changement de système, et après quand même effectivement, et là je partage les inquiétudes que Fonseca a dû imaginer, c'est quand même derrière, c'est à dire qu'effectivement comme tu disais, le dernier match de prépa, tu prends des buts, tu prends beaucoup de buts dans les matchs de prépa, en gros bon là c'est un poncif. Tu commences à construire ton truc par les bases, par les fondations. Non, ouais. Bon, là, ils y sont pas, les fondations. C'est vrai que c'est compliqué d'envisager une qualif. Donc, Fonseca, il a pas péché, lui, par excès d'optimisme et par prétention par rapport au Sparta. Au contraire. Il s'est dit, moi, je pense que je vais passer parce que devant, on a quand même des qualités, mais je vais blinder un peu derrière parce que j'ai pas confiance et j'ai pas trouvé mon système.
Mais si tu veux, avec Openda seul devant et en deux principaux pourvoyeurs, Tolisso, Abner, tu peux rien faire.
Non,
on le disait hier, même les transitions, tu peux pas les jouer. Et pour répondre à Greg, notre auditeur, je te dis pas qu'ils peuvent pas faire mieux, mais leur niveau actuel, Mata, Tesman, Maitland-Niles, ça correspond peu ou prou à ce que t'as vu hier.
Ouais, mais tu vois, moi Tesman, par exemple, qui était effectivement assez bon, c'est un milieu de terrain. La semaine prochaine, t'as le moyen de remettre Tesman au milieu de terrain. T'as Niakate qui peut revenir. Mmh. Donc c'est, je dirais que c'est plus la même histoire. Après, en gros, c'est un fusil à un coup. C'est-à-dire que là, maintenant, t'as plus le choix. C'est-à-dire qu'effectivement, tu vas devoir mettre plus de joueurs offensifs et une autre organisation. Mais je pense quand même que de revenir à 4 avec Niakate au centre de la défense et un Tesman à sa place, déjà, on va voir autre chose.
Après, tu as une équipe qui peut t'ennuyer en transition. On a vu côtés.
Ça, c'est
Alcocer,
vrai.
Mercado, même si je pense qu'ils sont moins bon que ce qu'ils ont montré hier, parce que ils ont eu des boulevards, ils ont eu
très
le triangle d'or
à
disposition, mais en transition avec le cousin Haaland qui est une planche assez performante, ça peut te poser des problèmes.
Allez, on va accueillir.
Je voulais ajouter quelque chose juste pour finir.
Vas-y.
Juste ajouter. Déjà, j'étais surpris par Sparta pour le jeu qu'ils ont proposé, qui était quand même plutôt sympa, faut pas le minimiser. Et secondo, je suis assez d'accord avec Flo. Je dirais pas que je suis confiant, mais on peut faire quelque chose au match retour. Voilà.
On verra ça mardi prochain à Décines. On va accueillir à présent Bilal qui a composé le 32-16 également. Salut Bilal.
Salut Bilal.
Oui, salut à tous.
Salut.
Vous m'entendez bien ?
Très bien, très bien, très bien. Donc pour toi, la défaite est méritée hier.
Franchement, défaite amplement méritée. Pour vous dire, j'ai même appelé mon frère à la mi-temps pour dire que c'était injuste pour le Sparta qu'il soit mené. Pour moi, il y a des joueurs qui sont athlétiquement vraiment pas au niveau, athlétiquement, et même il y en a qui, par rapport à leur niveau, je vais parler de Carvalho, pour moi c'est un mec, je sais pas comment il a grillé les étapes, et des jeunes de Lyon comme Kalis Mera qui me font penser à l'ADN lyonnais, comme un certain Oussem Aouar. Carvalho, pour moi, il peut penser à personne. Ils l'ont sorti beaucoup trop tôt, je sais pas s'ils ont dû repérer quelque
chose. Beaucoup trop souvent aussi.
Oui, non, pour moi, c'est beaucoup trop tôt. Pour moi, c'est impossible que ce soit lui le seul talent qu'ils aient pu faire sortir du centre. En tout cas, voilà, pour moi, des joueurs athlétiquement pas au niveau, un entraîneur qui est complètement gouré, que là, franchement, ça a débuté. Il fait beaucoup de bourdes des bourdes à des moments importants. Je ne craque pas sur le travail de Fonseca, bien sûr, hein, parce qu'il y a du travail de fond. Il a fait ce qu'il avait à faire l'année dernière avec très peu de moyens, et on s'en est bien sorti.
Mais Bilal, il y a quand même beaucoup d'avertissements de travail sur Fonseca dans les matchs importants, avec des compositions un peu bizarroïdes, où il y a un peu la main qui tremble au moment de choisir le 11.
Mais moi, je comprends pas. Il voulait un match avec des joueurs d'expérience de Carvalho. Pour moi, c'est pas un joueur d'expérience. Et même de faire jouer Abner, milieu droit. Le mec, c'est un arrière-gauche. Faire jouer Tesman en arrière. Mmh. Et pour moi, je sais pas s'il a voulu nous pondre quoi. Ou je sais pas s'il a été faire le Guardiola, voilà, sortir des joueurs de leur poste comme Guardiola a fait avec Stones.
Il y en a beaucoup. Là, le problème, c'est qu'il y en avait beaucoup. Et moi, j'ai un peu peur. Je vais pas te faire des déclarations dramatiques, des envolées en te disant qu'il va perdre le groupe. Mais c'est vrai que les messages qui passent, les jeunes, les recrues sont pas encore au niveau. Je trouve ça un peu compliqué à avaler pour la cellule de recrutement, pour des joueurs. Un Rémi Imbert, il a déjà montré au Vélodrome qu'il était prêt.
Exactement.
Un Boudache, il a montré dans une équipe en déliquescence qu'il avait les épaules pour absorber la pression d'une équipe de son club formateur qui se bat pour le maintien. Je trouve que c'est dur à entendre, en fait.
Bilal, tu es confiant quand même pour le match retour?
Non, je suis confiant pour le match retour s'il y a une compo où on pourra aller provoquer, parce que là on a un ADN qu'on se trimballe même en Ligue 1, où on est une équipe qui a peur et qui fait du jeu juste au moment où on est à partir du moment où on est mené. Faut arrêter, faut aller provoquer. On a des joueurs qui ont été achetés, même si c'est des Durandis, des Boudages, qui sont pas encore au niveau. Mais on peut pas me dire que eux ils sont pas. Pour moi, ils sont plus au niveau que les joueurs qui ont joué hier et qui sont hors poste. Tolisso, il est méconnaissable, mais il est hors poste. Il est hors poste. Moi, pour moi, tu peux pas demander à Tolisso de courir, surtout à ton âge. C'est pas quelqu'un qui est connu athlétiquement pour courir des kilomètres et des kilomètres. faut arrêter.
Après, c'est même pas une question de poste. Je pense qu'hier, c'est une question de prestation parce que Tolisso, on l'a vu à des postes un peu inattendus pour lui. On l'a vu en neuf. En fait, et c'est vrai qu'on l'a vu performant.
Ouais, mais c'est vrai qu'on l'a moins vu dans ce rôle-là où effectivement, il a quand même beaucoup plus de terrain à couvrir. Donc c'est vrai que
je sais pas si c'était attendu. En fait, je te dis, le rôle de voir Tolisso derrière un attaquant, c'est pas idiot. Non. C'est plus en fait le contexte du match qui a rendu son rôle difficile.
Non, mais après, en fait, tu disais, est-ce que Fonseca peut perdre son groupe? Effectivement, c'est une question. Faut faire gaffe. Je pense pas que tu puisses le perdre aussi
non,
vite. Je pense
qu'en plus,
l'an dernier, la plupart des joueurs, il les avait, et on peut pas dire que les joueurs le considèrent comme un tocard, loin de là. Je dirais même l'inverse. Tu peux peut-être, si lui, évidemment, se remet en question, tu peux t'en servir mentalement de ce match-là. C'est en gros, c'est un truc raté. C'est un moment, c'est compliqué. Il y a plein de questions à se poser derrière. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de solutions. C'est-à-dire que c'est pas comme s'il avait mis l'équipe que t'attends, une équipe qui était, mettons, performante dans les matchs amicaux, et que tu prends 3-0 au Sparta et tu dis, ah, on a pas
et le résultat. Et le résultat flatteur peut t'aider aussi, dans mesure où, dans le contenu, c'est vraiment une grosse claque dans la tronche, mais dans le résultat, c'est une petite pichenette de rappel.
Moi, si je suis coach, je leur dis, par exemple, on n'a pas été bon et moi le premier. Le miracle, on est mené 1-0, enfin 2-1 avant le match retour. On a des idées, je sais ce qu'on va faire et on y va.
D'accord.
Et là, dans ce cas-là, tu peux renverser la table, au moins pour ce match-là, parce que ce qui hier était un peu gênant, pour avoir attendu la compo dans la journée, parce que c'était un peu le premier vrai match, quoi. Il y avait pas mal c'est vrai que j'étais un peu surpris. Alors j'ai dit, attends, j'ai raté un épisode ou quoi là sur Fonseca, je sais pourquoi il fait ça. Après, je commence à échanger, il y en a qui me demandent sur les réseaux et j'ai des potes lyonnais et tout qui me disent alors carrément eux là, les mêmes ils veulent virer Fonseca là.
Ouais, on va pas. Hier on en avait un aussi
qui sont allés loin.
Mais après il doit être remis en question entre guillemets en interne en fait. Si tu veux, je pense qu'il faut qu'il y ait des discussions internes aussi pour qui se rendent compte aussi en fait de l'importance de ces choix et de cette double confrontation pour l'avenir de l'Olympique Lyonnais.
Rapidement, est-ce qu'on n'est pas sur la continuité de la fin de la saison dernière complètement ratée?
Ouais, mais pourtant avec un contexte différent. Oui. C'est-à-dire qu'il a, il y a une partie de l'effectif qu'il connaît par cœur. Il a quand même des certitudes. Moi, c'est ça qui m'a paru bizarre hier, justement, quand tu as quand même quelques certitudes. Et tu as des cartouches qui sont dans le mercato complexe des clubs français cet été plutôt pas mal. Donc en fait, je dirais que t'avais le moyen de réinventer quelque chose. Sur la lancée de la bonne partie, on va dire, de la saison dernière, et de rompre un peu avec, comme tu dis, la fin de la saison, en disant non mais il y a des nouveaux, et notamment Openda. Pour moi, le symbole d'hier, c'est Openda trop seul, mal servi, mauvais système. Mais Openda, comme on le pressentait, sans doute la très bonne pioche. Openda, il provoque quand même le péno. Si tu mets le péno, c'est plus le même match.
Moi, j'ai adoré son occasion en première mi-temps.
Openda, il sait un peu tout faire. Alors les appels, la profondeur, il peut revenir, il peut jouer. Enfin, on le connaît. Et la meilleure saison qu'il a faite, elle était en Ligue 1 il y a 3-4 ans. Donc si tu veux, j'ai envie de te dire que tu as tous les ingrédients, mais effectivement hier en gros il a tout mélangé, il a raté sa recette quoi.
Vous êtes d'accord, match raté hier, mais vous n'êtes pas plus inquiet que cela dans la perspective du match retour donc le 11 août prochain au Groupama Stadium et en espérant une qualification donc de l'OL pour les barrages. Ce sera face à Fenerbahçe ou le Sturm Graz. Sachez que les Stambouliotes mènent déjà 1-0 face aux Autrichiens, un but de Talisca. On va remercier Grégory et Bilal d'avoir composé le 32-16. Une petite respiration et on revient dans l'after. On va parler du voisin lyonnais, notamment l'AS Saint-Etienne. On va ouvrir une belle et longue page Ligue 2. Ne bougez pas, tout de suite.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Christophe Plenet.
Avec Florent Gautreau, avec David Guzman, on va ouvrir à présent une page Ligue 2. On vient de parler de l'Olympique lyonnais. On va parler du voisin, la Loire et le Rhône, qui sont deux départements côte à côte, vous le savez, avec un budget prévisionnel estimé à environ 35 millions d'euros. La SS évolue dans une catégorie à part dans ce championnat, annoncé comme le PSG de la Ligue 2. Les Verts ont raté pourtant leur première saison sous pavillon Kilmer Sport l'an dernier, échouant en barrage face à l'OGC Nice. L'argent ne
ne fait pas toujours le bonheur. On l'a vu donc la saison dernière. Les Verts sont-ils dans l'obligation de monter cette année sous peine de connaître un accident industriel? Qui a envie de démarrer? Flo, David, Flo?
Bah, déjà, ouais, je pense que les Verts, ils sont dans l'obligation d'être en haut du classement de la Ligue 2. Ils ont recruté, alors pareil, après, là, on va découvrir des joueurs encore, hein, parce que attention, là, ils sont allés chercher.
C'est pas mal. Sohaib Nahir qui vient de Guingamp, Jacob Breum, attention.
Ah, voilà, très bon
futur
joueur.
Futur pépite. Xongvai, je sais pas si je le prononce bien le hongrois. Il y a Tierno Ballot également. Il y a un deuxième gardien hein, pour concurrencer l'Arseneur. Quid, après, c'est toujours pareil, de Stassin et David Tajvili. Il faudra voir la photo au 31 août.
Exactement. En fait, ils ont des moyens. Ils ont ce Breum là qui est vraiment un bon joueur et ça se confirme dans les matchs de prépa. Je pense qu'ils seront en haut, ils vont jouer la montée. Après, il y a l'inexpérience du coach. Après, on a vu un Rosenior avec Strasbourg, c'est pas forcément, ça n'a pas été gênant.
Ouais, mais au départ, ils ont pris Horneland, ça n'a pas fonctionné.
Ouais.
Et là, ils se séparent de Philippe Montagnier, qui n'a pas réussi sa mission de ramener les Verts en Ligue 1. Mais là, ils vont prendre un Écossais que personnellement, je ne connaissais pas. Hein. Il a fait du bon boulot à Estoril, mais bon, je ne le connaissais pas plus que ça. Bon, il s'est mis au français, à la différence d'Horneland, il prend des cours. Mais il a zéro référence. En fait, il connaît pas la Ligue 2. Les joueurs recrutés sur Data, c'est un championnat où il faut aller au terrain, il faut mettre des brins, faut des briscards, faut de l'expérience.
C'est pour ça que je parlais du coach, parce que je serais presque paradoxalement moins inquiet avec ce genre de tentative, comme j'évoquais avec Rosenior quand il arrivait à Strasbourg, en Ligue 1 qu'en Ligue 2. En fait, en Ligue 2, il y a une telle spécificité sur, effectivement, que tu l'as dit, sur les types de matchs que tu as droit, que, effectivement, lui, il va falloir qu'ils s'adaptent très très vite et l'effectif aussi. Donc voilà, à part ce bémol là, effectivement, pour moi ils ont les épaules pour rivaliser. Il faut voir aussi que dans les autres équipes, et même s'il y a une grosse densité, parce que je regardais ça tout à l'heure, en fait t'as jamais eu autant d'anciens pensionnaires de Ligue 1, ou à peu près, en tout cas t'as 27 titres cumulés et 26 Coupes de France, voilà, ou 27 et 27.
C'est énorme.
Donc évidemment tu as les grands noms, t'as même Sochaux qui revient, t'as Saint-Étienne, t'as Reims, t'as Nantes. Donc
on parlera des autres prétendants après.
Mais c'est vrai que ça, sur Saint-Étienne, ils ont un avantage par exemple par rapport à Nantes ou par rapport à Sochaux, c'est qu'ils viennent de faire la saison en Ligue 2. Et je dirais que la saison, l'objectif n'est pas atteint, évidemment, mais je trouve plus compliqué pour Nantes de redescendre de Ligue 1, évidemment pour Sochaux qui monte de Détroit, que pour Saint-Étienne et pour le combat que ça demande. Mais avec la réserve effectivement de ce coach et d'un coach qui va devoir découvrir et qui va découvrir la Ligue 2.
Supporter stéphanois, n'hésitez pas à composer le 32-16. David, ton avis? Je sens que tu vas pas être d'accord avec moi.
Non, mais en fait l'obligation. Est-ce que ce serait un accident industriel? Parce que je reprends en fait ta phrase initiale. Non, parce que la chance des Stéphanois, c'est d'avoir trouvé un Père Noël qui s'appelle Larry Tenenbaum et qui a investi des sommes démesurées dans le club. L'année dernière, Saint-Etienne, c'était plus de 85% des dépenses transferts de Ligue 2.
Ouais, mais t'es pas monté.
Et cette année, il a encore été hyper généreux. Mais ils ont l'obligation sportive.
Et le Mans qui n'a pas recruté est monté.
Exactement. Non mais la saison dernière était un immense fiasco. C'était un immense fiasco. Et moi, je suis hyper déçu pour l'instant de Kilmer Sport. Je suis hyper déçu de Gazidis, qui avait fait un super travail à la MLS, qui avait fait un super travail à Arsenal, qui a redressé le Milan AC. Je suis hyper déçu de Rosenfeld, la personne qui a ramené la data, qui a même vendu la data à Arsène Wenger à Arsenal. Je ne comprends pas cette espèce de double direction franco-français. Avec Perrin, Soucas, et de l'autre côté la direction très data qui américaine. Et Saint-Étienne a absolument tous les atouts, mais tous les atouts pour écraser cette Ligue 2, parce qu'on parle même pas de monter, c'est-à-dire qu'avec les moyens financiers et la qualité de l'effectif, Saint-Étienne doit écraser la Ligue 2. Alors certes, il y a des interrogations. Stassin, David Tajvili, on sait toujours. Et quoi? Encore une fois, et quoi, l'option d'achat avait été levée, qui était un bon joueur de championship, mais on ne sait pas comment le sortir. Mais
les supporters n'en veulent plus. Hein.
Non, les supporters n'en veulent plus, parce que c'est vrai qu'il n'a pas du tout montré d'attachement. Mais par contre, je ne suis pas d'accord avec vous sur le fait que la Ligue 2 en 2026-2027, ce soit forcément une Ligue de vieux briscards, forcément une Ligue d'entraîneurs français. Je trouve que Toulouse, qui avait un entraîneur français, mais qui avait un recrutement ultra data, Spearings, Deya Guéret, Vandenboomen, Risseli, Raphaël Ratao, Oniaou, que des joueurs recrutés sur la data, et Toulouse avait marché sur la Ligue 2.
Moi, je parlais pas des joueurs, mais de l'entraîneur.
Oui, voilà. Mais.
Non, mais
c'était pas Philippe Montagnier, parce que.
Si, c'était, oui. c'était non, Philippe Montagnier.
Tu vois, je te dis, c'est paradoxal, parce que je tiendrai pas ce discours-là. J'ai tenu un peu le discours inverse, par exemple, sur Antoine Comboiré, je le lui ai dit quand il est venu.
Oui,
par rapport au Paris FC. C'est-à-dire que j'aime beaucoup Antoine Comboiré, mais je pensais, et je l'avais dit ensuite à Antoine Arnaud quand il était venu, que je ne les voyais pas continuer avec lui. Bon, je pensais pas que ce serait aussi rapide. Parce qu'en fait, à un moment donné, si tu veux, en Ligue 1, j'entends, construire quelque chose, une histoire technique, tactique différente, évidemment, tu vas tourner certaines pages en termes de coach. Et c'est pas la nationalité qui compte. Là-dessus, t'as raison. Mais en revanche, là où t'as raison, c'est pas les joueurs. Aujourd'hui, t'es obligé de fonctionner comme ça, enfin, et sur la data. Et d'ailleurs, ils ont fait, il y a eu des bons choix et il y a des bonnes recrues. Après, sur les coachs, c'est pareil, c'est pas bon ou mauvais coach, puisque en Hollande, moi j'avais vu des trucs intéressants au départ, mais c'est l'adaptation rapide en quelque sorte. L'an dernier, Montagnier, tout Montagnier qu'il était, il a effectivement pas fait fructifier l'effectif qu'il avait. Je dis juste que là, t'as, en dehors de ça, donc tu as quand même un effectif de qualité et supérieur à la plupart des effectifs. Tu as le public qu'on connaît, qui est quand même un atout non négligeable. Donc tu as effectivement l'obligation. Oui, je pense que si tu fais une deuxième fois, c'est un acquis.
T'as vraiment l'obligation, Flo.
C'est clair.
Mais en fait, si tu veux, moi j'entends en fait, si tu veux, le profil, la nationalité de l'entraîneur. Mais même en Ligue 2, moi je suis fondamentalement persuadé qu'il faut simplement que ton entraîneur corresponde en fait, si tu veux, à ton effectif. Mm-hmm. Et moi, Yann, c'est quelqu'un qui a été assistant de Benitez, assistant de Nuno, qui a été
Mourinho aussi,
qui a découvert très vite en fait le haut niveau à Earls of Midlothian en Écosse, qui s'est fait mais pourrir par tous les consultants de son pays parce que justement c'est quelqu'un qui arrivait à 30 ans en première division écossaise, qui prenait la place d'autres, et donc qui a très vite été rejeté. Je pense qu'il a le cuir très tanné, et moi j'ai envie d'y croire. Voilà, j'ai envie d'y croire. J'ai envie que Saint-Étienne, qu'un des plus beaux projets de Ligue 2 remonte, parce que la Ligue 1 a besoin de Saint-Étienne, la Ligue 1 a besoin des investissements de la famille Tenenbaum, et j'ai envie, en tant que qu'amoureux des chiffres, en tant que hipster, et encore je veux le remettre.
Les boomers aussi.
Non, mais en tant qu'hipster du football, moi, ce qu'ils font m'intrigue et j'ai envie que ce soit récompensé.
Il y en a un qui a envie que Saint-Étienne remonte, c'est bien sûr Thibaut qui a composé le 32-16 depuis la Haute-Loire et Saint-Jean. Salut Thibaut.
Bonsoir tout le monde.
Salut Thibaut.
Alors, tu es optimiste pour cette deuxième saison consécutive en Ligue 2 ou pas ?
J'adore le discours de l'hipster parce que c'est ce que je veux, bien évidemment. Après, si on regarde, mais après, parce que c'est vrai que cette année, on a quand même pas mal, beaucoup changé de choses. Après, moi, j'espère qu'on va garder quand même certains joueurs, que ce soit Stassin, Diavicii et Nadé. C'était quand même des joueurs, l'année dernière, qui nous ont aidés. Après.
Nadé annoncé partant, hein.
Ouais. Oui, Nadé, oui, les trois joueurs que j'ai donnés, ils sont logiquement doivent partir. Mais après, j'espère qu'on va garder quand même au moins deux ou trois. Ben, un ou deux. Ça va être dur. Mais après, moi, ce que je vois, c'est qu'on a quand même chopé des bonnes recrues, apparemment, cet été. Les peu matchs que j'ai regardés cet été, c'est difficile de les voir, mais bon, j'en ai regardé quelques-uns. On a quand même un bon site de jeu. Et après, le joueur qu'on a chopé,
Jacob Breum.
Il a l'air d'être quand même sacrément bon. Mais bon, après, espérons, et après, on croise les doigts pour l'année prochaine.
Après, effectivement, dans les matchs de prépa, ce qui est intéressant, c'est que d'abord, ils ont eu des adversaires intéressants. Mm-hmm. Ils n'ont pas pris, n'importe qui.
Ils ont tapé Venise la semaine dernière.
Ils ont beaucoup marqué quelque part, ils ont beaucoup encaissé. Pour l'instant.
Mais c'est assumé, hein, Kasper.
C'est plutôt ça que je veux pour répondre à ce que tu disais tout à l'heure. Effectivement, sur le style, oui, c'est plutôt intéressant. On va voir. C'est plutôt à friolant, j'ai envie de dire.
Et alors, après, on s'orienterait, d'après ce que je sais, vu mes accointances stéphanoises, sur un 4-2-2-2. J'avais jamais entendu ça avant.
Gegen pressing à l'allemande, il y a énormément d'équipes.
Alors, c'est pas exact, j'ai pas tout vu, mais j'ai regardé là sur un des derniers matchs, pas forcément. Alors, après, c'est possible que ce soit la volonté, et puis après, ça dépend de l'animation. Mais c'était pas forcément exactement ça. Mais de toute façon, dans le principe, et par rapport aux joueurs qu'il avait, effectivement, il y avait ça. C'est-à-dire que, le dernier match, c'est assez marrant pour ça. Effectivement, tu marques un but de plus que l'adversaire, t'es un peu dans cette logique-là. Donc, déjà, il y a un truc qui est bien par rapport au public, par rapport au fait d'être en phase avec ton public. Tu peux amener des gens, effectivement, tu peux amener des gens là-dessus. Brahim, effectivement, c'est une réussite pour l'instant. Enfin, en tout cas, c'est très prometteur. Donc, moi, ce que j'aime dans le projet, c'est de se dire, oui, il y a des moyens, mais justement, il n'y a pas juste l'idée de se dire on veut un système minimaliste, on veut absolument, il faut gagner. Non, il faut d'abord marquer un but de plus que l'adversaire, faire un football sympa, et ça, c'est plutôt bien. Après, il y a un truc qui est sympa aussi, c'est que le premier match, c'est contre Sochaux. Donc, c'est bon, pour l'affiche, elle est pas mal, et ce sera assez intéressant, parce que Sochaux sera pas ridicule, à mon avis, cette saison. Donc, pour Saint-Etienne, je trouve que c'est plutôt bien qu'ils aient pris des matchs amicaux comme ça. Je suis curieux de voir déjà dès le premier match que ça peut donner.
Non, mais il y a des joueurs en fait qui doivent confirmer. Moi, Kevin Pedro, j'aime beaucoup. Je pense que c'est un défenseur qui a énormément d'avenir. Et vous avez aussi, alors Flo adore cette expression de recrue cachée ou invisible, mais avec Jaber et Chicolomba, surtout le défenseur portugais, qui a
été blessé, ils seront pas là avant septembre.
Énormément blessé, mais c'est vrai que c'est deux recrues qui ont un niveau milieu de tableau Ligue 1 quand elles sont en jambes.
Après, si je peux dire un mot, ce qui est intéressant avec Saint-Etienne, c'est qu'en fait, on a les moyens, on a les moyens, les deux, pour acheter des très bons joueurs, mais vraiment, même plus haut. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils veulent avoir un style de jeu. Ils veulent voir que ce soit, en fait, offensif, qu'on s'ennuie pas au stade. Ils veulent que ce soit ça. Moi, c'est ça que je trouve intéressant à Saint-Etienne. Parce qu'on aurait les moyens, parce qu'on a, je pense qu'on a plus des moyens, même des moyens plus larges que de certains clubs de Ligue 1. On
aurait pu
acheter des joueurs plus, de plus gros calibre. Mais nous, ce qu'on veut, c'est avoir des jeunes et avoir un style de jeu. Moi, c'est ça que je trouve intéressant à Saint-Etienne. C'est ce point-là que je voulais vous montrer.
Merci beaucoup Thibaut d'avoir proposé le 32-16, supporter de l'AS Saint-Etienne. On a encore quelques minutes pour parler des Verts. N'hésitez pas à composer le 32-16. Il y a un facteur X, hein, tu en as parlé un petit peu Flo, c'est le public. Clairement le 12e homme, si l'équipe de 4-0 arrive à emmener le public, c'est un vrai plus qu'aucun autre club n'a envie de.
Tu sais ce que j'aime bien, ce que Kilmer a fait, c'est que quand il y a eu la question de la dissolution des groupes ultra, Kilmer sont vraiment montés au créneau pour des gens qui n'ont pas forcément la culture ultra, pour qui c'est complètement étranger, et ils se sont tenus. Alors après, on va peut-être me dire que c'est de la démagogie, que c'est gagner des bons points facilement, mais moi je les ai trouvés admirables dans cette lutte. Toutes les directions ne soutiennent pas de façon aussi vive leur groupe ultra, et j'ai trouvé ça, moi, très intéressant. Et pour des gens qui viennent de l'extérieur avec une approche data qui peut être un peu barbare, je trouve qu'ils ont fait preuve d'une grande connaissance du territoire.
Et juste pour revenir sur les coachs, tu vois, ce qui m'avait gêné, même si c'était contre Nice, qui était un club de Ligue 1, mais qui était un club en souffrance, qui avait la pression dingue, c'est justement le barrage. C'est-à-dire que moi, je trouve pas que Montagné, puisqu'on parlait des coachs tout à l'heure et de Fonseca sur un match, je trouve pas qu'il ait eu justement l'ambition de dire.
Ils étaient cramés,
c'est vrai. Mais tu vois, je retiens un truc de la Coupe du Monde. On disait un truc en dehors de tout ce qu'on a déjà dit sur les grosses équipes, c'est le Cap-Vert. Et pas parce que c'était sympa, marrant, folklorique, pas du tout. Parce que ils ont fait preuve d'une ambition à laquelle ne s'attendaient pas leurs adversaires. Et je trouve simplement que, évidemment, tu as raison, il faut avoir les jambes pour le faire. Et puis il y avait deux matchs. Mais je trouve que il faut savoir transmettre ça quand t'es coach. C'est-à-dire de dire, en gros, sauf quand il y a une différence absolument abyssale. Et Dieu sait que le Cap-Vert, on les voyait pas si beaux. On peut le faire. Et non seulement on peut le faire, mais on va surprendre nos adversaires en montrant que c'est nous qui allons être protagonistes, alors qu'ils s'attendent pas du tout à ce qu'on le soit. Et je trouve que même si ça avait été pour prendre l'avantage, tu vois, pour au moins marquer les esprits ou faire douter les adversaires, je trouve pas qu'il y a eu ça. Et là, il y avait le Montagnier que je connais, qui est pas un mauvais entraîneur. Là, mais qui en gros était un petit peu dans le calcul. Je dirais pas en disant on va les amener le plus loin possible et puis on verra sur un malentendu, mais un peu comme ça. Et j'avais été, alors je peux pas dire déçu parce que t'arrives au bout de la fin de la, enfin au bout de la saison.
C'est pas un barrage qui rate la montée. Bon, hein,
voilà, contre un club de Ligue 1, effectivement c'est avant qui rate la montée. Mais c'est un peu ce, en tout cas pour revenir sur la saison et sur celle qui s'annonce et sur ce qu'on voit au point de ce que disait Thibaut, l'auditeur et supporter des Verts. T'as aussi besoin de vibrer, quoi, et d'être devant, mais d'être devant parce que tu dis il se passe quelque chose au stade. Tu vois, ce Breuil là et autres, t'as envie d'aller voir, tu dis ok, on va aller voir. Et l'effectif qu'ils ont, effectivement, il laisse pas le droit normalement à l'erreur, quoi, par rapport aux autres.
Je pense que c'est aussi une compromission. Je comprends que Saint-Etienne, qui est un club assez traditionnel, soit parfois un peu heurté, en fait, par cet afflux de joueurs étrangers, par cette politique de trading. Donc, en fait, le public accepte aussi cette politique de trading parce qu'ils veulent, on leur promet d'en avoir pour leur argent, justement.
Et après, normalement, les joueurs, s'ils sont bien calibrés, et parfois dans le trading, il y a aussi derrière des discussions quand même avant de signer, quand t'as la chance de jouer en Ligue 2 pour un club comme Saint-Etienne et avec un public comme ça
devant 35 000 personnes.
Moi, à mon avis, ça doit entrer en ligne de compte parce qu'en gros, tu sais que derrière, t'as de la Ligue 1 potentiellement avec Saint-Etienne ou avec d'autres clubs qui vont te repérer
et des moyens.
C'est normalement un accélérateur de particules. Moi, si je suis un joueur méconnu du championnat suédois et que c'est Saint-Etienne qui vient, c'est pas la même chose que d'autres clubs, tu vois, même en France. Donc c'est un truc qui doit, aujourd'hui, je pense que quand tu vois que les cellules de recrutement, même en Ligue 1, vont être obligées d'aller taper sur tous ces championnats-là, ou voir dans la propre Ligue 2 qui, elle, a fait ce travail d'aller prendre des prospects comme on a pu en voir ces dernières années, et je pense que c'est une raison supplémentaire pour voir performer les joueurs.
De toute façon, Flo, on va parler chiffres une minute, hein, mais Saint-Etienne, depuis 2 ans, en termes de montant investi, ce serait top 10 de Ligue 1. Donc il y a un vrai projet Ligue 1, ouais, déjà en Ligue 2.
On verra si Catro a fait ses preuves. En tous les cas, au sein du vestiaire, il fait d'ores et déjà l'unanimité, hein. C'est Julien Le Cardinal, le nouveau capitaine des Verts, qui le disait. Je n'ai jamais vu un entraîneur comme ça.
Il novateur dans ses méthodes, il est humain. Typiquement maligne. Julien Le Cardinal, tu vas chercher à la trêve l'année dernière, pas une recrue trading, mais une recrue qui va t'apporter immédiatement quelque chose dans le leadership. Et d'ailleurs, il est excellent, Le Cardinal, sur la deuxième partie de saison de Ligue 2.
Clairement, les Verts qui démarreront donc à Bonal ce week-end, première journée du championnat de France de Ligue 2. Une petite respiration sur RMC, l'after revient. On va parler des autres équipes de ce championnat de France de Ligue 2, le premier championnat à reprendre en France, la Ligue 1. Ce sera le week-end du 21, 22 et 23 août. Ne bougez pas, on revient tout de suite avec Flo et David.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Christophe Plenet.
En compagnie de Florent Gautreau et de David Glusman, on vient de parler de l'AS Saint-Etienne. On continue de parler de la Ligue 2 et des candidats potentiels à un retour dans l'élite. Alors, on va parler de Nantes et surtout de Metz, hein, spécialistes de l'ascenseur Ligue 1, Ligue 2, qui viennent de descendre. On peut également parler de Montpellier, du Stade de Reims. Flo et David, quelles sont les équipes que vous voyez, eh bien, se mêler à la lutte pour retrouver la Ligue 1?
Écoute, comme j'ai dit tout à l'heure, les équipes qui alors j'ai envie de dire qui ont l'habitude de la Ligue 2 ou qui en ont repris, Metz. Moi je pense que Metz a un effectif équilibré pour la Ligue 2 et que à mon avis, s'ils sont pas tout en haut, ils sont dans les barragistes, et je les vois assez haut. Reims également. Reims, c'est intéressant parce que j'aime bien aussi la façon dont ils travaillent, effectivement, techniquement. Après, moi, mon inconnu, même si évidemment en termes de budget, ils vont être placés haut, c'est Nantes. Parce que
deuxième budget, hein, on parle de 30 millions, ouais, contre deuxième, 35 deuxième pour budget, pour
donc pour moi, ça c'est l'interrogation. Mais voilà, forcément tu étais obligé de partir sur ces clubs là en tout cas comme favoris, parce que il y a à la fois il y a eu des recrutements intéressants, il y a des joueurs qui connaissent bien la Ligue 2, je pense à Reims, je pense à Metz notamment, et donc t'es obligé d'aller là-dessus. Je parle de Nantes parce que quand tu descends de Ligue 1, il y a toujours ce truc à un moment donné où c'est un peu plus compliqué. Donc je mets une petite longueur d'avance effectivement à ce titre pour Saint-Etienne, mais voilà, on n'a rien inventé en disant ça. Après, l'autre interrogation concerne Montpellier par rapport au projet global, là, je dirais, et au fait que les Nicolas ont décidé de rester, on va dire, aux manettes.
Tu perds Mendy, tu perds Savanier, c'est plus pareil.
Exactement.
Quand même,
hein. Après, cette équipe-là, je dirais que À l'inverse de Saint-Etienne, je pense que Montpellier aura besoin d'un rebond et d'un second souffle dans sa gouvernance à un moment ou à un autre. Donc si c'est pas cette année,
parce que moi je vais te dire quelque chose. Moi j'y crois, cette espèce de reprise en main des Nicolin, où il y a eu la rumeur d'un consortium emmené par Gundogan, par Dani Carbayasun, et là en fait ils se sont dit. Je pense que c'est une vraie histoire familiale où avec Olivier ils se sont réunis en se disant bah écoute, on repart pour un tour, mais on repart pour un vrai tour. Et sentimentalement, j'aime le recrutement.
L'histoire est bien, l'effectif est intéressant.
Tardieu, ils sont allés prendre Tardieu, Mamadou Camara de Laval.
J'ai peur que par rapport, on va dire, au gros budget que sont Nantes et Saint-Etienne. J'ai peur que ça soit pas suffisant. Alors évidemment, ils peuvent jouer les places de barragistes. Ils sont
8e l'an dernier, Montpellier.
Mais l'an dernier, c'est toujours un peu prévisible. Je te dis, cette saison-là, elle est toujours très dure.
Bah, surtout qu'il fait écrémer en fait l'effectif.
Ouais, le fait qu'il tourne la page Savanier, par exemple, ça me choque pas. À un moment donné, il faut le faire. Je veux dire, c'est pas l'histoire de. Enfin, c'est pas l'enjeu maintenant pour lui d'être le leader. Il faut aller chercher de nouveaux joueurs. Il faut aller chercher des joueurs qui ont envie. Et qui ont faim en Ligue 2, mais je trouve que en tout cas le défi est sympa, mais il va être compliqué. Monter. Hein,
moi, chez tous les favoris, j'ai un oui mais Nantes. J'adore leur recrutement. Je trouve que Cafaro c'est très. Il peut peut-être d'ailleurs égaler le record de montée. Kylian Corridor, j'avais vraiment beaucoup aimé à Rodez, comme tous les coups que Rodez font offensivement tous les ans, et les joueurs qui mettent en valeur. Ils ont encore vendu Tariq Arconte à Millwall 3 millions. J'adore le réservoir de jeunes. Alors je sais pas si Tilel Tati va rester, mais Leroux, mais Guirassy, mais Tabibou, je trouve ça intéressant. Mais il y a toujours le contexte autour du club. Il y a eu des rumeurs fondées ou pas. J'en ai absolument aucune idée de reprise du club. Donc ça peut être un grain de sable dans la mécanique.
Et retour d'Erzac, bonne chose.
Là on rentre pour le coup par rapport à tout à l'heure dans un coach au moins qui connaît. C'est-à-dire que je t'aurais dit en Ligue 1, moi Derzac c'est bon, j'ai assez vu.
Mais il connaît le contexte aussi.
Et voilà.
C'est surtout ça.
Alors il connaît le contexte, il connaît tout. Il connaît la Ligue 2, il connaît le contexte, il sait à peu près comment ça va se passer.
Il connaît la famille Kita.
Je trouve pour le coup, vu la complexité, c'est-à-dire que en Ligue 1, moi je dis toujours tant qu'elle est Kita, c'est pas la peine. De toute façon, là maintenant j'attends la page suivante quoi. Bon, là ils sont en Ligue 2, quitte à choisir un coach, je trouve pas que ce soit une mauvaise idée.
Non, c'est pas idiot. Et surtout dans cette période un peu transitoire où t'as besoin de stabilité et d'une figure un peu tutélaire.
Et moi j'ai bien aimé par exemple au passage, juste sur Mostafa Mohamed là, l'épisode. Et moi j'ai bien aimé Derzac qui répond direct. Non, on l'a pas vu, pas là depuis deux semaines. C'est un scandale. C'est pas normal. Non, il joue. Évidemment que s'il revient, il jouera pas. Enfin, tu sais,
il
dit choses cash, normal. C'est un mec carré qui est dans le foot business actuel qui te dit, mais qu'est-ce que c'est que cette dinguerie. L'autre, il n'est pas venu à l'entraînement, il n'a pas envie de jouer. Donc, je pense qu'effectivement, dans tout ça, quand tu as besoin d'un peu d'un phare de stabilité,
c'est un repère intéressant.
C'est un repère. Il peut y arriver. En revanche, un repère, mais il va avoir une sacrée pression aussi. Puisque, évidemment, à Nantes, tu n'attends pas de rester en Ligue 2, tu as un budget important et
t'as un déficit opérationnel à couvrir.
Et il va devoir travailler avec des joueurs qu'il ne connaît pas aussi, en partie Derzac. Et ça, quand même, là aujourd'hui, les puzzles dont on parle partout, enfin dans beaucoup de clubs, pas partout, et tous ces joueurs recrutés par la data, là il faut être smart et rapide.
Là, ils ont fait un recrutement quand même très traditionnel.
Ouais, plus traditionnel.
Très traditionnel.
Mais quand même si tu veux, il faut aller vite pour mettre les choses en place. Moi, c'est plus ça que je crains pour des clubs comme ça. C'est le début de saison, la rapidité avec laquelle tu vas en gros t'installer ou pas en haut de tableau. Parce que si tu t'installes pas en haut de tableau avec les supporters.
J'allais y venir. La pression populaire à double tranchant de la Tribune Noire. On a vu ce qui s'est passé l'an dernier.
La zone play-off. Assouplit tout de même en fait la déception. C'est vrai que t'as toujours en fait un objectif qui est atteignable où tu te dis même si je me qualifie pour les playoffs à l'arrache,
c'est dur quand tu
non mais c'est compliqué
quand
tu vois ce que je veux dire
tous les ans, parce que l'an dernier j'étais là pendant les matchs de barrage et autres. Moi, ce système qui tue les clubs de Ligue 2, qui est pour faire en sorte en gros qu'ils n'y arrivent pas,
ça parle de ceux qui jouent les playoffs contre Rodez, ils s'en sortent, c'est un miracle.
Mais
les deux matchs contre Nice, ils sont cramés.
Étonnamment,
historiquement,
c'est fait exprès.
Le résultat du barrage n'est pas forcément énormément en faveur en fait de l'équipe
c'est
de Ligue 1.
Mais globalement,
je suis d'accord.
Ce truc en spectacularité, oui, c'est sympa parce que comme tu le dis dans la saison, tu remontes loin.
C'est le parcours du combattant.
Mais après, derrière, c'est fait
moi, pour plomber le club. Moi, je serais pour des playoffs à l'anglaise avec demi-finale et finale sur terrain neutre. En fait, je pense que même si on groupe ça avec des playoffs de Ligue 3, ça pourrait être une super idée. Je reviens en fait sur Reims. Moi, Reims, j'adore Nicolas Houssaye. J'adore tous les joueurs qu'il a mis en valeur à Pau. Il y en a un d'ailleurs qui s'appelle Verzini, que je comprends pas qu'un club de Ligue 1 soit pas allé chercher. Bref, mais je trouve que l'effectif de Reims s'amoindrit tout de même de saison en saison. C'est-à-dire qu'il y avait énormément de qualité l'année dernière. Nakamura va notamment certainement quitter Reims. Et je trouve que je comprends pourquoi ils sont obligés de vendre énormément. Ils avaient vendu d'ailleurs la saison dernière pour plus de 80 millions d'euros. Mais je trouve que l'effectif en fait s'amoindrit tout de même énormément. Et Metz, il y a notamment via le partenariat avec Génération Foot des joueurs hyper intéressants.
Au Sénégal, hein.
Il y a un vrai savoir-faire pour remonter.
Tu perds Gauthier-Hein quand même. Hein.
Oui, tu perds Gauthier-Hein, tu perds Yegbe qui était un défenseur relativement solide. Tu vas certainement perdre Alpha Touré parce que c'est un joueur en fait que tu peux monétiser. Quid d'Habib Diallo? J'en sais rien. Même si en pointe, c'est pas forcément le poste où ils ont le plus besoin de joueurs.
Pas sûr qu'il veuille y rester.
Ma surprise. Si je peux avoir une grosse cote, ce serait Annecy. Je les ai vus jouer plusieurs fois la saison dernière. Laurent Guyot, ils ont fait 7e. Ils ont un partenariat avec Aston Villa que je trouve assez intéressant, où Aston Villa va se servir d'Annecy pour faire de la post-formation. Tous leurs cadres, alors qu'ils vont peut-être pas dire énormément de choses à nos auditeurs, mais qui sont des joueurs très solides de Ligue 2, les Clément Bilmaz, les Antoine Larose. Donc moi, Annecy, si ça pourrait être le Red Star de l'année dernière, ça pourrait être une équipe qui ou le Rodez de l'année dernière.
Justement, le Red Star 4e l'an dernier, Rodez 5e. Est-ce qu'ils peuvent réviser une aussi bonne saison?
Le Red Star, c'est pas si mal sur les joueurs qui restent. Il y a des joueurs pareils qui connaissent très très bien, donc ça va. Je les vois un peu pareils. Peut-être qu'ils auront du mal à accrocher les barrages cette année.
C'est parce qu'il y a Damien.
Non, mais je pense que le travail, justement, je serais curieux de voir avec l'effectif. On va dire qui reste avec les joueurs qui restent et avec un nouveau regard.
Ils ont prolongé Durand qui est vraiment voilà, je pense un de leurs meilleurs joueurs. Ils ont perdu Ben Ali en pointe, il manquait déjà un peu de but.
C'est ça. C'est pour ça qu'offensivement ils vont. Enfin bon, il y a Durand, ok, mais je veux voir ce que met en place Damien Perinel. Mais en tout cas, le Red Star moi, me semble assez solide justement dans la connaissance de la Ligue 2. Et après, tu parlais de Rodez. Bon, bah Rodez, ça travaille bien globalement. Hein, donc
on parlait en fait d'un club français, d'un entraîneur français qui bosse un peu comme un club et un entraîneur étranger. Ils sont ultra forts en recrutement, ultra forts pour valoriser les talents. Tous les Anglais, ils ont vendu Arconte 3 millions. Je pense que Baldé, son compère d'attaque, va suivre. Donc, non, ça peut être équipe surprise aussi. Et après, attention aussi au back-to-back, aux équipes qui montent, un peu comme Le Mans l'année dernière.
Sochaux-Dijon.
Je pense que c'est des équipes qui n'ont pas énormément bougé.
Sochaux-Dijon, c'est intéressant. Et à l'inverse, il y a peut-être un fossé qui peut se creuser avec la fin du classement, avec des clubs comme Boulogne qui vont souffrir. Enfin, je pense, hein, je ne leur souhaite pas, peut-être qu'ils me démentiront, tant mieux pour eux sur le terrain. Laval, qui a souffert l'an dernier et qui était pourtant un club qui pouvait prétendre et qui pourrait. Laval, c'est un club très intéressant, hein, parce que là, on parle de moyens. Laval, si Laval le souhaitait, je dis bien le souhaiter, c'est-à-dire en gros si Lactalis le souhaitait,
c'est ce que j'allais dire.
Et ben Laval pourrait faire un prétendant à monter à la Ligue 1 sans aucun problème. Donc je dirais que c'est un peu terrible pour un club que je connais un peu. C'est un peu dur parce que là cette année par exemple c'est un peu compliqué.
Ils perdent Chukwunte, ils perdent Camara qui part à Montpellier.
Ils perdent leurs bons joueurs on va dire et ils ont une saison compliquée. Alors que dans l'idée. Financièrement, si Lactalis mettait un petit coup d'accélérateur, il pourrait être immédiatement un candidat à la montée et ça va peut-être être un peu plus compliqué.
Un petit mot pour conclure sur Dunkerque hein, qui a perdu donc Dembaba. Qui a perdu du monde, Bardelli, Sasso, il y a eu
Georgen
ou encore Anto Sekongo ouais. Et il y a un petit junior qui est arrivé. Ouais. Champion du monde, Steven Nzonzi, 37 ans.
Et t'as aussi, tiens, au passage, juste pour la start, Zidane, un petit Zidane qui est arrivé.
Ouais, absolument.
Défenseur, je crois.
Ouais, exactement.
Nzonzi, 37 ans, pour boucler la boucle en Ligue 2.
Il a dit que c'était sa dernière.
C'est une bonne idée ou pas?
Alors, ça, c'est peut-être, c'est pas une mauvaise idée en soi. Je t'avoue, je l'ai pas vu récemment, mais pourquoi pas.
Ah, moi, tu joues dans le championnat iranien, ouais, au Stoke.
Ça mais en revanche, ce qui m'inquiète plus à Dunkerque, c'est pas le fait que Nzonzi arrive, c'est ceux qui partent.
Ouais.
Et ils s'affaiblissent vraiment.
Moi, c'est ceux qui partent. Les deux qui m'inquiètent le plus dans les départs, c'est Dembaba et Romain Decaul. Pour moi, Dembaba et Romain Decaul, c'était les deux cerveaux du projet dunkerquois qui étaient absolument magnifiques. On les a vus tenir tête au PSG en Coupe de France. Le nombre de joueurs qu'ils ont sortis, tu les as égrenés. Et Dembaba, Romain Decaul, parmi les dirigeants sportifs français, je pense que c'est le haut du panier. Très heureux supporter à vrai de compter sur le duo. Je les attendais même plus haut.
Et pour conclure, un petit mot sur les promus. Sochaux, on en a parlé. Dijon, est-ce qu'ils peuvent quand même tirer leur épingle du jeu? Ça fait partie quand même des gros clubs.
Il y aura vraiment de partir en Arabie Saoudite là.
J'ai plus son nom, mais
Rodriguez, je crois. C'est ça. Junior Rodriguez, mais qui était à Cannes et qui a commencé sa carrière tard. Bon, je comprends qu'on a une offre saoudienne, ce soit un peu compliqué. Moi, je vais pas paraphraser Elton Mokolo, je crois beaucoup au momentum. Il y a énormément de cas de back-to-back ces dernières années.
Bah, Le Mans, déjà.
Tout à fait. Après, très franchement, la Ligue 2 est tellement dense.
C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'on n'est pas devant le championnat le plus dense de Ligue 2 de l'histoire?
Ouais, on est sur un truc assez dingue parce que, effectivement, je pense que ça va être très homogène. C'est-à-dire que là, je me défie de faire un prono. On se plante déjà même sur la Ligue 1 relativement régulièrement. Enfin,
mon petit prono, t'es souvent bien classé ou moyen, Flo?
Non, je suis moyen. Je me maintiens.
Quelle humilité, Flo.
Non, je suis très moyen.
Non, non, parce que c'est vérifiable, donc il veut pas mentir.
Non, mais mon petit prono, c'est une chose, mais le grand prono, quand tu le fais, c'est pas facile. Quand tu fais le prono mois d'août pour le mois de mai suivant, c'est quand même un truc très casse-gueule.
Deux promus. Alors, on fait deux promus barragistes. Et surprise de la saison.
C'est-à-dire, deux qui montent.
Tu fais les deux qui montent, tu fais le barragiste qui jouera contre l'équipe de Ligue 1 et ta surprise.
Je vais dire qui monte Saint-Étienne et Reims.
Ouais.
Ma surprise. Tu veux dire qui va être barragiste?
Non, après, ta surprise peut être barragiste. Mais.
Ma surprise, Sochaux.
Ok.
Alors, je ne sais pas si ça sera barragiste, mais bon. Une
belle allez, Sochaux, barragiste, on en voit.
Belle saison, cinquième. Okay.
Barragiste, donc.
Ouais, voilà.
Ok.
Et puis, ceux qui descendent, je mets Boulogne. Après, je ne sais pas, il faut en mettre deux.
Non, après, je n'avais pas demandé ce que fasse pas fait l'émission en même temps. Après.
Boulogne, moi,
tu es ici chez toi, David. Ouais. Et toi, comme tu fais le malin, toi, je t'écoute. Saint-Étienne-Montpellier qui monte.
Ouais.
Bah, je crois beaucoup. Renouveau Nicolas. Surprise, Annecy, je l'ai dit. Finale barragiste, Nantes.
Très bien, c'est noté, on verra.
Annecy, il y a un truc qui me gêne, puisqu'on parlait des stades et des publics, ça me paraît pas.
Le sport.
Le parc des sports, ça me gêne.
Ouais.
Bah moi,
j'aime beaucoup Annecy, mais
ce qui me gêne, c'est que le vrai tournant de l'histoire moderne des Girondins de Bordeaux, c'était Annecy. Donc en fait, à chaque fois que je regarde un match à Annecy, j'ai encore des flashbacks.
Allez, une petite respiration. L'after revient dans un instant avec Flo Gautreau, avec David Glusman. On va parler de nouveau de la Ligue 1, du Paris Saint-Germain ou encore de Toulouse. Ne bougez pas, on revient dans un instant. Vous êtes sur RMC.
RMC, l'after foot.